Le dernier mot. 21 octobre 2021, 13h42. Trois fois, le pilote du Super Hornet a fait répéter l'ordre. Mais il n'est que l'ultime maillon d'une chaîne, et à quoi sert la main si elle refuse d'obéir au cerveau? La décision vient d'être arrêtée dans le Tank, la salle la plus sacrée du Pentagone. C'est une chambre forte sans fenêtre, officiellement Room 2E924, qui ressemble à une banale salle de conférence d'entreprise, avec sa table en chêne dorée, ses fauteuils pivotants en cuir et son décor intemporel. Sur un tableau au mur, le président Abraham Lincoln tient une réunion stratégique de la guerre de sécession. Autour de lui, le général de corps d'armée Ulysses Grant, le général de division William Tecumseh Sherman et le contre-amiral David Dixon Porter. Tous ces gradés sur toile ont été témoins de la décision la plus secrète jamais prise par les chefs d'état-major des différentes armes. Une décision longuement débattue sur laquelle le président a tenu à avoir le dernier mot. Le missile se détache de l'aile du chasseur qui remonte vers le nord-ouest. Aussitôt, l'IM-120 déclenche sa fusée et en quelques instants atteint sa vitesse de croisière, laissant derrière lui une traînée grise et rectiligne. Le soleil se reflète sur sa paroi d'acier. Il est la mort scintillante. À Mach 4, la cible n'est qu'à 15 secondes. À Paris, face au Luxembourg, Victor et Anne prennent un dernier café en terrasse avant d'aller dîner. C'est fin octobre, mais l'été se prolonge encore. Il est indien, comme on dit. Anne lève les yeux vers Victor, lui sourit. Jamais l'écrivain ne s'est senti aussi vivant. Il lui arrive de penser que la mort d'un autre Victor a rendu son existence aussi vaporeuse que précieuse. Sur la table, il a posé les deux briques de Lego comme deux sucres rouges vifs. Il les assemble, les déboîte, machinalement. « Fumée de fumée, dit Coëlette. Avel Evelim, Avel dit Coëlette, tout est fumée. » Victor vient de poser le dernier mot au court livre qui raconte l'avion, l'anomalie, la divergence. Comme titre, il a pensé à « Si par une nuit d'hiver, 243 voyageurs » et Anne a secoué la tête. Puis il a voulu en faire l'incipit et Anne a soupiré. Ce sera finalement un titre bref, un seul mot. Hélas, l'anomalie était déjà pris. Il ne tente pas d'expliquer. Il témoigne avec simplicité. Il n'a retenu que 11 personnages, et devine qu'hélas, 11, c'est déjà beaucoup trop. Son éditrice l'a supplié. « Victor, pitié, c'est trop compliqué, tu vas perdre tes lecteurs. Simplifie, élague, va à l'essentiel. » Mais Victor n'en fait qu'à sa tête. Il a attaqué le roman avec un pastiche à la Mickey Spillane à propos de ce personnage dont nul ne sait grand-chose. « Non, non, pas assez littéraire pour un premier chapitre, » lui a reproché Clémence. « Quand cesseras-tu de jouer ?» Mais Victor est plus joueur que jamais. À 1000 kilomètres de là, au Mount Sinai Hospital, Jodie Markle n'a plus de larmes. Elle ferme les yeux. Elle perd David pour la deuxième fois. Depuis 4 jours, il est en sédation profonde, puisque même le nano-médicament français ne suffit plus à soulager la douleur. Paul se tient debout à côté de son frère, amaigri, hâve, silencieux. Dehors, un bruit de verre le distrait, il entrebâille le store, se penche, regarde dans la cour. Sur le parking, deux hommes s'insultent autour d'un phare brisé, tandis que dans la chambre, sur le scope, la sinusoïdale de l'électrocardiogramme s'aplatit pour rester étale et que le faible bip devient une note continue. À Lagos, le concert des Slim Men s'achève quand tombe la nuit tropicale. À la fin du concert, pour la dernière chanson, un invité surprise monte sur scène, un petit homme blond à costume rose à paillettes et grandes lunettes lumineuses dorées sous les vivas et les applaudissements. Et plus de 3000 jeunes Nigérians reprennent avec eux le refrain dont tous connaissent le sens caché. « I want a mist of forgiveness, but I shall beg for nothing less, to cover the blood and tears. I just want some love, if you please. Johanna, March, a grossi, et l'enfant pourrait arriver plus tôt que prévu. C'est une fille. Elle s'appellera Shana, du nom d'une princesse japonaise oubliée, et Anne, en hébreu. Elle a quelques loisirs car le procès Valdéo n'aura pas lieu. Un arrangement a été trouvé avec les plaignants, et l'heptachlorane retiré du marché. Elle ne se sera jamais rendue à la réunion du Dolder, où il fut question de quête de l'immortalité, puis, au dîner, des endroits sur la planète où fuir les effets du réchauffement et les vagues migratoires. Prior a acheté 100 hectares en Nouvelle-Zélande. Abby aurait voulu continuer à correspondre avec Johanna June, dans un cocktail boueux de troubles et de culpabilité, mais elle a refusé de maintenir un lien. Plus tard, peut-être. Elle a rencontré quelqu'un au bureau, un expert du trafic d'œuvres d'art. Lui croit que c'est sérieux. Elle en doute, mais veut y croire. Dans l'île Lanzis de l'Ouest Antarctique, c'est le début du printemps et le glacier Thwaites, ce gros glaçon épais de 2 kilomètres et grand comme la Floride, pourrait bien se détacher dans 3 mois. Et les eaux montaient de plus d'un mètre, mais Sophia, Liam et leur mère ont quitté la maison inondable de Howard Beach. Les June se sont installés à Akron, près de Cleveland. Les March à Louisville. L'armée et le FBI ont tenu leurs promesses et de leur côté, elles ont accepté de ne jamais tenter de se recontacter. Elles pourraient avoir un point commun, Clark, mais les termes de sa condamnation excluent tout contact ultérieur avec sa famille. Et peu à peu, chez les deux Liam, la colère est retombée. Blake a tort de s'inquiéter. Au FBI, plus personne ne le recherche. À partir des 2 images floues prises à la douane de Kennedy d'un homme qui pourrait être le passager du siège 30E, la NSA a identifié par reconnaissance faciale 1,049,278 visages sur les réseaux. Sur ce million, 1553 sont ceux d'individus ayant été pris la semaine suivante par une caméra d'un des aéroports de la côte Est, mais cela ne prouve rien. 4,482 autres visages ne correspondent à aucun profil et apparaissent seulement sur des photos, parfois en arrière-plan. Certes, l'homme est dupliqué, mais il cherche clairement à passer inaperçu. Et puis de quoi est-il coupable? Sinon d'avoir fracturé une porte de hangar et volé une voiture. André March pose une céramique bleue sur le buffet de la cuisine dans sa toute nouvelle maison de Montjou. Début août, lors d'un concert au temple du village, il a rencontré une contrebassiste qui habite le bourg voisin. Il était prêt. Une longue femme très brune, aux yeux bleus et profonds, qui le fait rire et ne cesse d'arrêter de fumer. Elle porte parfois une ample salopette dont les béances ravissent les mains d'André, et il découvre les joies du vélo électrique. Ce matin, après l'amour, elle s'est rendormie dans la chambre, et pendant qu'il dresse la table du petit déjeuner, Lucy March l'appelle, juste pour le plaisir de sa conversation. Elle travaille, beaucoup, beaucoup trop, dit-elle, mais elle s'apaise, supporte le rythme qui s'est installé entre elle et Lucy June, pour la garde de Louis, qui va bien. Étonnamment bien. Le garçon n'est pas mécontent que son autre mère, Lucy June, soit enceinte. Le centre de gravité de la vie de cette Lucy a tant bougé en quelques mois que l'inimaginable est devenu possible. « Tu es certaine ?» a demandé André June, aussi heureux qu'inquiet. « Oui, certaine. Elle l'est. » C'est un nouveau point d'équilibre et une manière de revanche sur ce destin. Elle n'a plus jamais rappelé Raphaël et aucun autre amant de fortune ne l'a remplacé. Adrienne et Meredith sont à Venise, Italie, Europe. Ils sont bloqués dans leur hôtel par l'Aqua Alta, mais ce confinement momentané n'est pas si tragique. Leur chambre ensoleillée donne sur le Fondamenta del Passamonte. Le room service est irréprochable. Le directeur de l'hôtel a cru reconnaître en Adrienne un acteur américain, mais lequel? Et la chemise moins blanche et moins immaculée, souvenir de la Maison Blanche, est étalée en vrac sur le sol, recouverte par une robe noire. Ils parlent à voix basse, sous une pyramide de draps invisible, et l'on entend le rire clair de Meredith. En septembre, le département de la Défense a mis fin au protocole 42 pour se concentrer sur l'opération Hermès. Les spéculations du groupe de travail auront duré tout l'été sans que nul imagine le moyen d'infirmer une théorie ou d'en confirmer une autre. Les Américains n'auront jamais appris non plus l'existence de cet autre avion en Chine. On est sans nouvelles de ses occupants. Jamie Pudlowski boit un dry martini dans l'un des bars de Quantico après une dernière séance de formation. Elle a validé l'avant-veille le dernier plan de protection des passagers du 006 et a obtenu sa mutation sur la côte ouest à San Francisco, où elle prend, dès la semaine prochaine, le poste de directrice du bureau régional et les 7 offices satellites. Si on lui demandait ce qu'elle pense à l'instant, elle commanderait seulement un autre dry martini. La caméra latérale sous l'aile gauche du Super Hornet suit la trajectoire de l'AIM-120 et dans la salle de commandement au sous-sol de la Maison Blanche, le président des États-Unis d'Amérique observe l'écran géant, les sourcils froncés en serrant les poings. Oui, c'était une décision difficile et je l'ai prise seul, car c'est mon rôle de prendre des décisions seul. Lorsqu'il a appris qu'un troisième vol Air France 006 avait surgi dans le ciel atlantique, avec aux commandes le même commandant Markle, assisté du même Favreau, avec à son bord les mêmes passagers, le président a ordonné la destruction de l'appareil. On ne peut tout de même pas laisser se reposer ce même avion encore et encore. « Prenons un dernier café, dit Victor, tu veux bien ?» Il attire Anne à lui, caresse ses doigts frais, l'embrasse délicatement sur les lèvres qu'elle entr'ouvre, et son haleine sent le tabac et le menthol. C'est alors que cela se produit. C'est d'abord un souffle, un tourbillon éphémère de feuilles mortes sur le sol. Il y a dans l'air une note très faible, un fa de contrebasse. L'air vibre, et le ciel devient plus clair, mais si peu. Une dame bien mise qui tire un cabas s'arrête devant une librairie. Un homme en gabardine promène un gros chien noir. Une jeune fille à vélo passe devant eux, s'arrête, regarde son smartphone et sourit. C'est un moment paisible, serein. Le missile n'est plus qu'à une seconde de l'avion de ligne Air France 006, et le temps s'étire, s'étire avant l'explosion. Il est difficile de décrire ce qui se passe. Aucun mot n'existe tout à fait dans la langue pour définir cette vibration lente du monde, cette pulsation infinitésimale qui, partout sur la terre et dans le même instant, affecte aussi bien le chat qui dormait près de la cheminée, dans ce chalet de l'Arkansas, que l'oie cendrée qui traverse le ciel au-dessus de Bordeaux, et les chutes du Zambèze et les neiges immaculées de l'Annapurna, le pont du Rialto sur le grand canal de Venise comme l'artère encombrée du grand bidonville de Daravi, et l'éponge sale posée au bord d'un évier à Montjou, et le vieux pneu crevé dans la cour d'un garage à Mumbai, et la tasse à café rouge de Mars, cette pulse infinimale qui tout sur l'instant a si bien chat qui prenait chalet de l'Arsas passant traversu le Bordeaux et les chutes en baise neige immée de la larange sasée au Danévion et le vieux V dans la cour d'un garage bail la tasse à café rouge de Mars et dans l'instant a aussi le charmet prenait dans de l'Arcan que l'on traverse au-dessus le Bordeaux et les chutes en baise et de la larange cette pulse infinimale tout sur l'instant.